Bonsoir et merci de suivre Radio Capi ce vendredi 29 novembre 2013. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de l'arrestation le week-end dernier dans l'affaire Jean-Pierre Bemba de quatre personnes parmi lesquelles Fidèle Babala, député national et cadre du MSC, et Aimé Kilolo, avocat de Jean-Pierre Bemba. La CPI les accuse de subornation des témoins, c'est-à-dire d'avoir tenté de corrompre certains témoins. Comme deuxième sujet, nous parlerons de la tournée du président Joseph Kabila à l'est de la RDC. Hier jeudi, à l'étape de Butembo, le chef de l'État congolais a appelé la population de Beni et Lubero à sensibiliser les jeunes pour qu'ils se désolidarisent des groupes armés. Trois confrères seront avec nous dans cette émission. Il s'agit de Joël Kadindanga. Il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadindanga.
Bonsoir confrères et bonsoir auditeurs de Radio Capi.
Nous sommes également avec Ambroise Mamba. Il est journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Ambroise Mamba.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous.
Nous sommes enfin avec Gaston Mouchide, il est directeur général de la radio-télévision Manika, émettant depuis Kolozi au Katanga. Bonsoir Gaston Mouchide.
Bonsoir, merci.
Bienvenue à tous dans cette émission. L'arrestation le week-end dernier dans l'affaire Jean-Pierre Bemba de quatre personnes parmi lesquelles Fidèle Babala, député national et cadre du MLC, et Aimé Kilolo, avocat de Jean-Pierre Bemba, ainsi que la tournée du président Joseph Kabila à l'est de la RDC, figurent parmi les sujets ayant occupé les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
La presse est revenue sur notamment la tournée du chef de l'État dans l'est de la RDC, ainsi que sur l'affaire Babala à la CPI. Le président de la République, Joseph Kabila, s'est adressé hier à la population de Butembo, à environ 350 km au nord de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, révèle le phare. Abordant la question sécuritaire, notamment la dernière défaite des rebelles du M23, Joseph Kabila a estimé qu'il reste une autre phase, celle de la consolidation des positions des FRDC. Une autre phase, et non des moindres selon Joseph Kabila, est celle de la traque des ADF Nalu et des groupes armés nationaux. Il a demandé aux notables du Nord Kivu de sensibiliser tous les jeunes qui sont encore avec ces groupes armés de les quitter. La référence plus cite Joseph Kabila, la guerre que nous avons est causée par des groupes armés qui perturbent la paix de la population. Il y a les ADF Nalu à Beni qui enlèvent la population civile. Il y a aussi les groupes des FDLR qui créent la désolation de nos populations. Fin de citation. Il s'est réjoui du fait que plusieurs groupes commencent à déposer les armes. Au sujet des tracasseries, le chef de l'État a promis sans plus de détails de mettre fin rapidement aux tracasseries que connaissent les populations de la région, renchérit l'observateur. Après Butembo, le chef de l'État va poursuivre son périple dans les territoires des Rutshuru et des Nyiragongo. Les journaux kinois se sont aussi penchés sur la suspension de la participation du MLC aux travaux du Parlement. L'exaspération du groupe parlementaire MLC allié a débouché sur une décision grave, écrit La Prospérité, qui tire à sa une « Affaire Babala, MLC allié, suspension de la participation aux travaux du Parlement ». Les partis de Jean-Pierre Bemba et ses alliés ont suspendu, à dater de mardi 26 novembre dernier, leur participation aux travaux parlementaires et ce jusqu'à nouvel ordre. Les députés nationaux MLC alliés soulignent les caractère irrégulier et cavalier de l'arrestation de l'élu de la Tchangou. Pour les MLC cités par le journal, cette arrestation n'a jamais fait l'objet d'un examen par l'autorité judiciaire compétente de la RDC. Ensuite, le collègue a été privé de son droit de demander auprès de l'autorité judiciaire compétente sa mise en liberté provisoire. Enfin, l'honorable Babala n'a jamais été déféré devant un magistrat. Ce qui corrobore au Forum des As en annonçant que le groupe MLC allié suspend sa participation à l'Assemblée nationale. La prospérité note dans son édito que la cohésion nationale est en panne. Quoique n'ayant aucune responsabilité dans les calamités qui frappent les bembistes, d'aucuns pensent que le gouvernement congolais pourrait s'arroger les droits d'organiser ces transférements de façon commode. Cela pour ne pas gâcher l'osmose qui s'est faite à l'issue du forum des concertations.
Joël Kadindanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine a été marquée aussi par l'assassinat de Lajos Bidiou, président fédéral du MLC Bas-Congo et député national honoraire de ce parti. Un petit commentaire par rapport à ce drame.
En tout cas, un drame qui vient de s'ajouter encore à ce parti qui a perdu dans les 7 dernières années 3 élus du peuple et sans que cela n'appelle à de procès exemplaires pour découvrir les circonstances dans lesquelles ces trois députés ont été tués. Il s'agit de Marius Ngangale et de Boteti. Et maintenant, là, c'est la JOS. Tous cadres du MLC qui ont été tués dans des circonstances beaucoup plus macabres. Que vraiment, l'État congolais ouvre des procès pour que l'on découvre un peu les circonstances de la mort de ces élus du peuple.
Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Un petit commentaire par rapport à l'assassinat de la JOS vidéo.
Bon, un petit commentaire, qu'est-ce que je veux dire? Il faut seulement déplorer l'assassinat et puis attendre qu'il y ait des enquêtes sérieuses qui soient diligentées pour qu'on puisse établir les responsabilités par rapport à ces assassinats. Je pense que c'est pas intéressant, mais vous allez peut-être m'excuser par rapport à un autre fait d'actualité. Ça concerne les 250 bus. Au fait, un appel d'offres qui a été lancé par le ministère des Transports par rapport à l'acquisition de 250 nouveaux bus en faveur de responsable des véhicules de transport en commun. La fois passée, j'avais parlé d'une perte de la République pour 5 millions de dollars américains. Mais lorsque nous avons fait des recoupements au niveau de notre rédaction, il n'en est rien. Il n'y a pas eu de perte d'argent pour la République. Il y a eu plutôt un gain pour le pays parce que le ministère du Transport n'a pas pu accorder ce marché à celui qui était le moins de 10 ans, tout simplement parce qu'il n'a pas présenté des états financiers garantissants. Il fallait donc un marché des 12-15 millions de dollars et celui qui était le moins de 10 ans n'a que moins de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc on ne pouvait pas lui donner ce marché. Et en termes de balance économique, la RDC a gagné parce qu'elle va installer une usine de montage de bus sur place et ça fera que les pays voisins achètent des bus en RDC et le ministère du Transport, le ministre Justin Kalumba a gagné.
Joël Kanedanga, Ambroise Mamba est en train de le dire, l'actualité cette semaine dans le domaine du transport en commun est marquée bien sûr par la signature des deux contrats samedi dernier entre d'une part le gouvernement congolais et l'association des propriétaires de véhicules affectés au transport en commun et d'autre part entre le gouvernement congolais et Central Motors, représentant de la firme coréenne Hyundai. Il s'agit pour le premier contrat de livraison de 250 bus, comme le disait bien sûr Ambroise Mamba, de marque Hyundai aux membres de l'APEVCO. Et le second contrat concerne le protocole d'accord sur le montage des véhicules Hyundai à Kinshasa. Un petit commentaire, bien sûr, pour compléter, bien sûr, ce qu'Ambroise disait.
Non, c'est vraiment une avancée pour permettre le renouvellement du parc automobile congolais. Mais là où le bas blesse, c'est la tricherie qui a caractérisé ce marché qui a été accordé, n'est-ce pas, à Central Motors, qui a déjà été débarqué, n'est-ce pas, de la course dans l'accord de ce marché ici, qui a été repêché parce que il ne présentait pas, il était en difficulté de présenter ses états avec l'INSS, l'INPP, mais c'est plus tard qu'il a été repêché. Une tricherie qui démontre la volonté dans ce pays de ne pas favoriser les nationaux. J'ai été reçu par le ministre à ce sujet, je le lui ai dit. J'ai dit qu'il y a eu trop d'irrégularités, peut-être qu'ils ne peuvent pas être liés à ce niveau. Même au niveau de l'autorité de la régulation des marchés publics, on a traîné les pas pour répondre aux recours qui ont été rédigés quant à ces sujets ici. Et il faut voir l'agitation avec laquelle le cabinet du ministre s'est soulevé pour répondre aux accusations dont ils ont été victimes de la part de M. Piana. C'est vous dire que dans ce pays, il y a la volonté de ne pas favoriser les Congolais. Peut-être que prochainement, il faudrait que tous on abandonne la nationalité congolaise pour bénéficier des avantages que nous offre notre État. Mais c'est une avancée, en tout cas très significative, pour un peu nous débarrasser de 207 qui ne font qu'endeuiller la République démocratique du Congo.
Gaston Mouchid, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Manika Emetan depuis Kolwezi au Katanga. Quelle est l'actualité à la une dans votre province et à Kolwezi où vous trouvez en ce moment-ci?
Bon, il faut dire que d'abord au Katanga, l'actualité reste dominée par le match qui va se jouer très prochainement à Lubumbashi, dans la capitale de la province, chef-lieu de la province du Katanga, un match de Mazembe de la RD Congo contre les Faxiens. Donc les gens sont vraiment trop attentifs pour voir si Mazembe va se défendre valablement, parce qu'il lui faut minimum 3-0 pour pouvoir s'en sortir. Donc les gens sont Il m'a tendu en attente de ce match qui va se jouer dimanche. L'autre actualité aussi, c'est cette campagne qui est menée par les gouvernements provinciaux du Katanga par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Donc, les conseils des ministres et Moïse Katumbi-Tchapwe vont en guerre contre la famine et l'importation de la farine de la Zambie en essayant de demander aux agriculteurs à qui ils donnent des engrais, des semences, de faire un effort pour que dans les tout prochains jours, la province soit s'autosuffisent de manière à ce qu'on produise localement les denrées alimentaires.
Oui, merci beaucoup pour ces éléments d'information. Et sans transition, nous abordons notre premier thème de ce soir. Justice dans l'affaire procureur contre Jean-Pierre Bemba. La CPI annonce que 4 personnes suspectées de subornation des témoins sont aux arrêts depuis samedi et dimanche dernier en Europe et en RDC. À Kinshasa, Fidel Baba, la députée nationale et secrétaire générale adjointe du MLC, a été arrêté samedi par les autorités congolaises, puis transféré à la haie. En Europe, Aimé Kilo, avocat de Jean-Pierre Bemba, a été arrêté à Bruxelles par les autorités belges. Jean-Jacques Mongenda, membre de l'équipe de défense de Bemba, chargé de la gestion des dossiers de l'affaire, a été arrêté de son côté par les autorités néerlandaises. Tandis que Narcisse Arido, témoin cité à comparaître par la défense, a été arrêté par les autorités françaises. Le point avec Billy Yvan Lutumba.
D'après un communiqué de la Cour pénale internationale diffusé ce dimanche, toutes ces personnes seront remises à la CPI ultérieurement, conformément aux procédures judiciaires applicables dans ces 3 pays. Ces personnes ont été arrêtées sur base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge unique de la chambre préliminaire 2 de la CPI. Jean-Pierre Bemba Gombo est lui aussi suspecté des mêmes charges, précise ce document. Le suspect aurait constitué un réseau aux fins de produire des documents faux ou falsifiés et de corrompre certaines personnes afin qu'elles fassent de faux témoignages dans l'affaire concernant Jean-Pierre Bemba. Le greffier de la Cour pénale internationale, Herman von Ebel, a exprimé au nom de la Cour sa gratitude aux autorités de ces États pour leur coopération, rappelant qu'il s'agit des premières arrestations pour de telles charges devant la CPI.
Pour sa part, le collectif des avocats du député national Fidel Babala fustige la procédure engagée par la RDC pour son arrestation. Dans une déclaration faite au sortir de l'audience, leur accordée par le procureur général de la République, ses avocats disent regretter que le statut de Rome et les dispositions de la législation interne n'aient pas été respectées. On écoute Maître Alexis Lenga et Jacques Joly au micro de Jacques-Yves Molima.
Le principe, c'est que même si un mandat est envoyé par la Cour pénale internationale pour être exécuté par un État signataire des statuts de Rome, les dispositions sont claires. L'État concerné dispose de son pouvoir judiciaire afin de vérifier la régularité de l'arrestation et le détenu dispose de droit de demander sa liberté provisoire. Ce qui est scandaleux. Pendant que nous venons pour appliquer les statuts de Rome et les dispositions de notre législation interne devant le procureur général, on nous apprend que Fidel Babala est embarqué dans l'avion apprêté par la Cour pénale internationale.
Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est un acte d'esclavagisme que les avocats ne puissent pas faire valoir devant magistrats avec des pièces, eh bien, si c'est comme ça qu'elle va asseoir sa coopération avec des États fragiles pour faire le jeu des forces obscures, eh bien, il est tout simplement regrettable.
Joël Kadendanga, quelle analyse vous faites de ces arrestations?
Bon, je crois que la justice doit faire son travail, mais je pense l'avoir dit l'autre fois lorsque cela a été retenu comme une des recommandations des concertations nationales qu'il y aura une mise sur place des mécanismes de suivi pour tous les Congolais qui sont en instance devant la Cour pénale internationale. J'avais dit que c'était une recommandation pour la consommation locale, pour la consommation populiste et politicienne. Et c'est lorsque la justice ne peut pas recevoir les ordres de la politique. Et chez nous, il y a une démonstration du refus de la cohésion nationale. Le refus de la cohésion nationale a été constaté, très chers confrères, et même les auditeurs seront témoins, puisque dans tous les pays où les Kilolo et les autres ont été arrêtés, même Jean-Pierre Bemba avait été arrêté au niveau de la Belgique. C'est dans le pays signataire de l'accord des statuts de Rome que la première audience doit être effectuée pour vérifier la régularité de la procédure et du mandat émis par la Cour pénale internationale. Mais ici chez nous, la ministre de la Justice, Madame Mouivine Moumba, qui a défendu la régularité de cette procédure, on n'a pas organisé cette procédure. Et Babala a été arrêté devant ses enfants par des policiers cagoulés. C'est comme s'il s'agissait d'un assassin en principe, le mandat peut être émis, mais il faut qu'il y ait les premières audiences au pays qui est appelé à négocier, à collaborer avec la CPI. Mais chez nous, et il faut voir la célérité avec laquelle cela a été exécuté. Immédiatement arrêté, immédiatement mis dans l'avion, pas de procédure au niveau local pour examiner la régularité de cette procédure. Ça veut dire que au niveau local, il y a refus, n'est-ce pas, de la cohésion nationale. En d'autres, à d'autres niveaux, le MLC, Mouvement de Libération du Congo, est en train de payer, n'est-ce pas, le prix de sa naïveté dans la politique congolaise. Vous allez constater que ce parti, au lieu de s'allier au peuple, au lieu de s'allier à la population, a cherché dans tout son parcours à flirter avec le pouvoir. Et c'est ainsi que vous allez constater que tout le parcours de ce parti est jonché par soit le débauchage de ses membres pour le camp du pouvoir. Vous savez, à un certain moment, vous avez vu, et même dans ce cas ici, il y a eu un cas de deux poids, deux mesures. Il y a Bosco Ntaganda qui a été réclamé par la CPI. Le gouvernement congolais avait refusé de le livrer. Mais cette fois-ci, on l'a livré. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que Mme Gbagbo, qui est aussi dont il y a un mandat émis par la CPI pour sa livraison au niveau de la CPI, aujourd'hui, le président Ouattara refuse de la livrer pour besoin de la réconciliation nationale. Alors, je disais que le MLC paye le prix de sa naïveté politique parce qu'en même temps qu'il se dit parti de l'opposition, je voudrais chuter, en même temps qu'il se dit le parti de l'opposition, en même temps, il est en train de flirter avec le pouvoir. Si,
mais lorsqu'on flirte avec le pouvoir, donc on devient ennemi du peuple?
Non, on ne devient pas ennemi du peuple. Un parti politique, sa définition, c'est une association d'individus réunis autour des idéaux pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Vous devriez d'abord savoir ce pourquoi vous vous êtes mis ensemble. Mais ici, les idéaux du MLC semblent flirter avec le pouvoir pour des avantages individuels et égoïstes. Et c'est pour cette raison que le MLC ne tire pas les leçons de tout ce qui lui est arrivé durant tous ses parcours. Trois députés tués, il ne tire pas les leçons. C'est pour dire que le FPI en Côte d'Ivoire est mort. Le fait d'avoir refusé, n'est-ce pas, de négocier ou de traiter, de participer dans la gestion du pays avec le parti oufouettiste, non.
Jacques Kalindanga, nous revenons à vous, Ambroise Mamba. Comment est-ce que vous analysez en fait la procédure mise en place pour le transfèrement de Fidel Babala au niveau de la haie? Le MLC dénonce le non-respect de cette procédure.
Justement, le MLC a raison de pouvoir dénoncer la procédure parce qu'il y a eu politique de deux poids deux mesures au niveau du gouvernement congolais. Vous allez vous rappeler que Bosco Ntaganda avait tué, violé nos compatriotes de l'Est, mais au nom de la paix, il a été retenu et puis protégé par le pouvoir de Kinshasa pour ne pas être transféré à la CPI. Et actuellement, nous sommes dans un contexte de cohésion nationale. On a amené les gens du MLC aux concertations pour donner au pays la cohésion nationale. C'était les chefs de l'État qui étaient à la recherche de cette cohésion nationale. Et au nom de cette cohésion nationale, on ne pouvait pas livrer dans ces conditions Fidel Babala à la CPI. Et il fallait peut-être étudier une autre manière pour voir s'il fallait examiner la question au niveau des juridictions nationales. Et comme l'a dit Maître Alexis Lenga tout à l'heure, il fallait appliquer les statuts de Rome sur Kinshasa. De cette manière-là, on ne pouvait pas cracher sur la cohésion nationale. Moi, je trouve tout simplement que le gouvernement congolais a lui-même craché sur sa propre cohésion nationale, qu'il a recherché pendant plusieurs jours au Palais de la Nation, où beaucoup de partis de l'opposition n'ont pas pris part, l'UDPS et l'UNC. Ici, je ne veux pas dire que la subornation qui est reprochée à Fidel Babala est fausse, non, parce qu'il fallait d'abord que cette procédure soit menée jusqu'à la fin, mais jusqu'à maintenant, il jouit de sa présomption du non-sens. Mais au niveau local, il y a eu politique de deux poids, deux mesures, et Joël l'a dit, le MLC a été naïf. Il est victime de sa naïveté politique parce que il pensait flirter en même temps avec le jeune pouvoir pour ses propres intérêts égoïstes, et cette fois-ci il en a eu pour son compte, et il doit comprendre qu'effectivement comprendre vraiment les gens de la majorité présidentielle comment ils fonctionnent lorsqu'ils sont devant leurs propres intérêts. Ils blaguent pas, ils badinent pas avec, et le MLC doit tirer les conséquences de ce qu'a été sa naïveté politique.
Gaston Mouchid, Ambroise Mamba, l'ambassadeur Kadede Ndanga disent que le MS a été naïf sur le plan politique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on voit les membres de ces partis être victimes de leurs actes. Comment est-ce que vous analysez le transfert du Fidel Babala au niveau de la haie?
Disons que j'ai mais dit aussi que nous sommes dans un pays de droit et quand on commet une infraction de droit commun ou de droit public, on doit payer, on doit répondre de ses actes. Donc la CPI a émis un mandat, a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, de Maître Aimé Kilolo, de Jean-Jacques Manguenda et de Fidel Babala. Donc les deux devraient, ou les quatre devaient répondre de leurs faits parce qu'en même temps, ce n'est que des présomptions. Il s'agirait pour eux de donner leurs moyens de défense pour pouvoir se défendre. Mais je me dis, la rapidité quand même avec laquelle le gouvernement congolais ou le ministère de justice a arrêté et délivré un élu du peuple en la personne de l'honorable Fidel Babala inquiète un peu plus d'une personne. Voyez-vous, les mandats d'arrêt a été délivré le 20, déjà le 23, un élu du peuple, à mon avis, sa fuite n'est pas à craindre. C'est quelqu'un qu'on pouvait arrêter en toute légalité, en respectant la législation en matière de justice en RDC, mais qu'on aille le chercher la nuit avec des policiers, des militaires cagoulés, ça ne transparaît pas bien. Parce que vous rappelez que la même CPI avait délivré un mandat contre Bosco Ntaganda, mais il n'a pas été livré par la République, parce que le porte-parole du gouvernement congolais, M. Lambert Mende, a prétendu dire que le gouvernement congolais est dans l'obligation de prêter main forte en exécution de ses mandats. Pourquoi est-ce que le même gouvernement n'était pas dans l'obligation de prêter main forte à la CPI en livrant Bosco Ntaganda, qui est allé lui-même se livrer dans un autre pays? Vous allez voir que les individus qui ont fait l'objet d'accusations par la Cour pénale internationale sont essentiellement des Africains. En Ouganda, par exemple, depuis 2004, on cherche Joseph Kony, Vincent Oti et bien d'autres, Dominique Ongwe. On le cherche, on ne l'a jamais arrêté, il est en circulation. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo est recherchée par la CPI. Elle n'a pas été livrée par son pays. Vous avez par exemple au Darfour Ahmed Haroun et Ali Kochen qui sont recherchés, Omar El-Béchir, qui sont recherchés par la Cour pénale internationale, mais ces gens-là n'ont jamais été livrés à cette Cour parce que on s'est dit qu'on a besoin de justice. Et pourquoi seulement la justice des Africains? Est-ce qu'il n'y a que les Africains qui ont des crimes qui méritent de répondre à la CPI? Les autres pays ne peuvent pas répondre à la CPI. Je crois qu'il y a un problème. Là aussi, les gouvernements doivent faire très attention. Autant on n'a pas livré Bosco Ntaganda pour des raisons de la paix, autant, à mon avis, il ne faut pas livrer cet élu du peuple, Fidel Babala, parce que il est de MLC, c'est un élu qu'on l'amène très rapidement à la CPI pour qu'il réponde de ses actes. Je crois que ça compromet un tout petit peu la fragile paix que nous sommes en train de rechercher de nos jours.
Merci Gaston Mouchido, Jean Kalindanga. Dans une déclaration faite mardi dernier au Palais du Peuple, le groupe parlementaire MSC Alia a décidé de suspendre sa participation aux travaux parlementaires jusqu'à nouvel ordre. Comment est-ce que vous analysez d'abord cette initiative du groupe parlementaire MLC et Alia? À quoi est-ce que cela peut aboutir finalement?
Un coup d'épée dans l'eau parce que cette prise de position vient grandement en retard. Pourquoi? Parce que c'est le MLC qui a toujours été trouvé dans l'opposition. Vous vous rappellerez même depuis Sun City, l'accord de cascade, c'est toujours le MLC qui a toujours été trouvé l'élément fragile, l'élément facile que l'on peut croquer si on veut infiltrer l'opposition, si on veut poser tel ou tel autre cas acte au niveau de l'opposition. Ce sont les membres du MLC que l'on trouve facile à traquer, à amener. Et ils n'ont pas compris la leçon un peu bien avant. Ambroise Mambala dit tantôt, lorsqu'il dit que maintenant, là, il devrait tirer ses leçons un peu beaucoup plus tôt. Vous allez constater que il y a eu trois morts, trois élus qui ont été tués, et maintenant des élus, parce qu'il ne faudrait pas parler de Jean-Pierre Bemba comme n'importe qui. Jean-Pierre Bemba, c'est un élu du peuple, il est un sénateur. Vous vous rappelez que dans cette histoire ici, Bemba a payé le prix de son opposition par la France, lorsque la France avait refusé que Maman ne vienne au secours de Patassé. le président centrafricain, Mbemba avait refusé, il a apporté et on lui avait promis qu'il devrait le payer. Aujourd'hui, il l'a payé. On a trouvé que les dossiers étaient presque vides et qu'il pouvait être libéré. Et on l'a décapité maintenant de l'avocat qui maîtrise ces dossiers, parce qu'il faudrait prendre tout au moins une année par un autre avocat pour maîtriser ces dossiers ici. Et là, il sera poursuivi non pas pour les crimes de guerre en Centrafrique, mais pour la subornation dont la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Je crois que le MLC devra tirer des leçons cette fois-ci et s'allier à ses idéaux pour conquérir le pouvoir, l'exercer selon ses idéaux, au lieu que certains individus jouissent seulement, bénéficient seulement de tout petits avantages.
Jacques Adindanga, nous donnons d'abord la parole à Ambroise Mamba. Ambroise Mamba, le MLC en suspendant sa participation aux travaux parlementaires suite à l'arrestation d'un de ses membres, Fidèle Babala, est-ce que cette solution prônée par le MLC peut décrisper la crise? Est-ce que cela pourrait avoir un impact sur ce qui se passe à La Haye?
Non, ça ne peut pas avoir de l'impact par rapport à ce qui se passe à La Haye, parce qu'ils sont déjà transférés là-bas, ils sont déjà détenus à La Haye, ils sont dans les geôles de la CPI. Donc la démarche du MLC, c'est pour la consommation locale et non pour la consommation internationale. Et Joël a parlé des coups d'épée dans l'eau, justement par rapport à la CPI, non par rapport à la RDC. Mais par rapport à la RDC, ça dépend de la manière dont ils vont mener leur action. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? S'ils vont jusqu'au bout, ça peut apporter des résultats par rapport à l'interne. Je suis en train d'y arriver. Et il y a d'abord un problème des appétits gloutons dans les chefs de Jean-Pierre Bemba lui-même. Il y a aussi des appétits gloutons dans les chefs du MLC. C'est là qu'il a été naïf, ce parti. Mais si ils vont jusqu'au bout, par rapport à leur démarche de pouvoir faire pression, c'est un moyen de pression par rapport aux institutions de la République, et ils peuvent mettre en difficulté Joseph Kabila, qui a besoin de la cohésion nationale, qui a annoncé un gouvernement de cohésion. Ils peuvent aller jusqu'au bout, refuser de participer à ces gouvernements de cohésion. Encore faudra-t-il qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Ils ont des appétits gloutons, je dis. Est-ce qu'ils vont refuser de participer à ce gouvernement de cohésion pour aller jusqu'au bout, dire au pouvoir de Kinshasa, nous sommes mécontents de la manière dont vous avez transféré notre élu au niveau de la CPI. Nous ne participons plus aux travaux parlementaires. Nous ne participons plus à votre gouvernement de cohésion nationale. Nous comprenons désormais que nous devons rester dans l'opposition et non plus faire bloc ensemble, parce que nous avons tenté de le faire, mais vous nous avez joué un mauvais jeu. De cette manière-là, le MLC peut arriver à obtenir quelque chose. Et bon, peut arriver à obtenir peut-être cette fois-ci l'intention du gouvernement congolais ou bien du pouvoir de Kinshasa par rapport à ses affaires. Là, le gouvernement pourrait arriver à faire quelque chose par rapport à la mesure qui a été annoncée par le chef de l'État pour que le gouvernement de cohésion nationale fasse les suivis de l'affaire Jean-Pierre Bemba. Mais comment on va faire les suivis? Parce que maintenant, il y a une crise de confiance désormais entre le MLC et le pouvoir de Kinshasa. Pour qu'on fasse les suivis, il faudrait qu'il y ait confiance. Mais avec ça, il y a une crise de confiance. Je pense que c'est difficile et il faudrait qu'il puisse aller jusqu'au bout, mais c'est vraiment difficile par rapport aux appétits gloutons du MLC.
Gaston Mouchid, on apprend que cette décision du transfèrement de Fidèle Babala à la Haye et de suspension de participation du groupe parlementaire MLC et allié aux travaux parlementaires jusqu'à nouvel ordre divise ce parti politique de l'opposition. Comment est-ce que vous entrevoyez-vous l'avenir politique du MLC dans une année, dans deux ans ou dans 10 ans avec ces crises à répétition dans ce parti?
À mon avis, très humble avis, il fallait que les membres du MLC et leurs alliés puissent rester au Parlement et faire valoir leurs droits. Parce que vous avez vous-même remarqué que quand ils ont suspendu leur participation aux assises, on a invité la ministre de Justice qui s'est tenue comme un poisson dans l'eau en alléguant ce qu'elle a allégué. S'ils étaient plutôt là, peut-être que les débats pourraient être chauds et qu'ils pouvaient faire valoir leurs revendications. Parce que je me dis qu'arrêter leur participation aux assises, c'est encore un acte de naïveté. Parce qu'ils n'iront pas loin. Ils vont être affamés, ils vont être obligés de rentrer. Vous savez que lors de l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, les MLC avaient arrêté sa participation aux assises. Et puis, sans que les revendications qu'ils avaient données aient trouvé gain de cause, ils sont rentrés. Et ils vont faire la même chose parce qu'ils n'iront pas très loin. Et ils sont minoritaires, ils vont pouvoir revenir dans un futur très proche, même sans obtenir gain de cause, parce que la RDC n'ira pas chercher l'élu Fidèle Babala à la CPI pour le remettre en RDC, de sorte que les élus de MLC puissent revenir aux assises. Donc, faut revenir à tout prix. Autant ne pas faire ce que moi j'appelle une farce politicienne en essayant de rester là-bas, parce que aujourd'hui c'est irréversible. On ne va pas changer la pyramide. Il fallait qu'ils restent là-bas et qu'ils démontrent qu'ils sont un parti d'opposition et qu'ils peuvent démontrer que l'arrestation de Babala était irrégulière et qu'il y a lieu de mettre pression sur le ministère de la Justice et éventuellement tous ceux qui ont concouru à l'arrestation de leur élu. Mais que rester à côté, parce que la politique de la chaise vide ne paye pas, hein, vous restez à côté, mais entre-temps ça évolue. Admettons qu'on vote le budget dans les tout prochains jours, admettons qu'il ne soit pas dans les gouvernements. Le monde continue et la vie va continuer comme ça. On a fait ça en 2006 avec Étienne Tshisekedi. Lui et son UDPS n'étaient pas dans les institutions, mais ça a continué. On peut donc vous oublier et ce ne sera pas une bonne façon de gagner la guerre.
Oui, je vois qu'Adine Danga, en un mot, puisque nous terminons déjà ce sujet, comment vous entrevoyez l'avenir du MLC dans une année, 2 ans ou 10 ans?
Non, c'est un parti dont certaines forces obscures ont décidé son effacement politique. Peut-être qu'il est en train de payer le prix d'une des positions prises dans les années antérieures, parce que vous allez constater que les grands caciques, les grands révolutionnaires de ce mouvement, Olivier Kamitatou, François Mwamba, comment il s'appelle, les députés sur qui il y avait l'embargo ici, tous ont quitté ce parti politique. Je ne vois pas qu'ils vont continuer à poursuivre les combats du MLC, je crois, à moins qu'ils prennent, qu'ils s'élèvent un peu plus tôt pour réfléchir sur leur avenir. Sinon, c'est un parti appelé à disparaître de la scène politique congolaise.
En un mot, Ambroise Mamba.
C'est vraiment un parti sans avenir, parce qu'il est pris en otage par les totalitarismes de Jean-Pierre Bemba lui-même, et puis par rapport au fait que ces cadres sont tellement gourmands qu'ils veulent à tout prix entrer au niveau du gouvernement. Comme l'a dit Gaston, qui est au téléphone, ils seront bientôt affamés et ils vont retourner sans obtenir gain de cause au Parlement.
Nous passons directement à notre deuxième sujet de ce soir. Au Nord Kivu, le chef de l'État congolais Joseph Kabila a appelé la population des territoires de Beni et Lubero à sensibiliser les jeunes pour qu'ils se désolidarisent des groupes armés. Appel lancé hier jeudi à Butembo, à 300 km au nord de Goma, lors de son adresse à la population. C'était en présence des responsables des partis politiques de l'opposition et de la majorité. D'après Joseph Kabila, plusieurs jeunes qui travaillent avec les rebelles ougandais de l'ADF Nalo, les Rwandais des FDLR et d'autres groupes armés locaux doivent déposer les armes pour s'inscrire dans la logique de la paix. Écoutez les propos du chef de l'État Joseph Kabila, recueillis par Papi Martial Mukeba.
La guerre que nous vivons est causée par des groupes armés qui perturbent la paix de la population. Il y a des ADF Nalu à Beni qui enlèvent les populations civiles. Ils sont appuyés par nos jeunes. Il y a aussi les groupes des FDLR qui créent la désolation au sein de la population. Eux aussi sont soutenus par des groupes de jeunes. Ils ne gagneront aucune guerre contre la RDC. Plusieurs groupes armés qui sont actifs dans la province du Nord Kivu commencent à déposer les armes. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je lance encore un appel pour qu'ils déposent les armes. Mais je veux qu'ensemble, nous puissions sensibiliser, conscientiser ces groupes armés pour qu'ils déposent les armes. Ceux qui vont refuser, nous avons la capacité de les neutraliser. Et par rapport aux tracasseries de la population, c'est une situation à laquelle nous mettrons rapidement fin.
Ambroise Mamba, comment est-ce que vous analysez cette première tournée du chef de l'État à l'est du pays après la victoire militaire des FRDC sur les M23?
Bon, j'ai trouvé que le chef de l'État est dans son rôle de pouvoir faire voir à la population qu'il est commandant suprême des FRDC. Les FRDC ont fait quelque chose de très important dans l'est pour récupérer les territoires qui étaient sous contrôle autrefois par le M23. Mais il a lancé un appel aux jeunes de pouvoir se désolidariser des groupes armés. Je trouve que par rapport à cet appel, le chef de l'État demande quelque chose de très difficile à ces jeunes. C'est comme s'il leur demandait de se désolidariser de la contrainte des groupes armés. Parce que ces jeunes, ils sont face à la contrainte des groupes armés. Comment ils doivent se comporter face à la contrainte? Ils doivent accepter de mourir? Ou ils... Ici, je suis en train de réfléchir par rapport à un enrôlement dont ils sont victimes. Parfois, ils sont enrôlés au sein des groupes armés parce qu'ils ont été contraints d'y aller. Et puis, ils laissent leur peau. Et alors, le chef de l'État devrait chercher autre chose par rapport à cette contrainte. Il a lancé, il a mis en demeure ces groupes armés. Et encore faut-il qu'ils puissent passer maintenant à l'acte pour faire voir à ces groupes armés la puissance de feu des FARDC afin de laisser tranquilles ces jeunes. Ces jeunes sont peut-être au village, ils vaguent librement à leurs occupations, mais comment ils doivent se désolidariser de ces groupes armés s'ils n'ont rien à faire, s'ils sont face à la contrainte, s'ils sont face à l'arme, ainsi de suite. Et je pense que c'est la difficulté à laquelle seront placés ces jeunes. Le chef de l'État trouverait peut-être autre chose pour permettre à ces jeunes de pouvoir faire face à cette contrainte qui vient de groupes armés.
Joël Kadendanga, comment vous analysez le fait que le chef de l'État ait préféré effectuer ce déplacement dans toutes ces localités de l'Est par route que par avion?
Bon, vous savez, Joseph Kabila, c'est un président du peuple. Il aime toujours être beaucoup plus en contact direct avec la population. Vous avez vu, dans la plupart des cas, il a effectué ses voyages. Il préfère d'ailleurs être seul au volant pour se rendre compte des réalités du terrain, palper du doigt la réalité du terrain. Et le message qu'il a lancé aux jeunes est bon. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque... En disant, en reconnaissant qu'il y a les ADF Nalou, les FDLR chez nous, c'est pratiquement donner du renfort aux alibis de l'Ouganda, du Rwanda, de toujours attaquer notre pays. Je pense que la logique aurait été poussée un peu beaucoup plus loin pour voir dans la mesure du possible comment emboîter les pas au président tanzanien qui a demandé au Rwanda et à l'Ouganda de négocier avec leurs groupes armés. Et lorsqu'il y aura ces négociations, autant que Mme Robinson est ici pour obliger le gouvernement congolais à conclure l'accord de Kampala, autant il faudrait qu'au niveau de notre diplomatie, qu'on oblige au gouvernement installé à Kampala, installé à Kigali, de négocier avec leur rébellion. Parce que dès qu'il y a une négociation entre ces gouvernements avec leurs groupes de rebelles respectifs, je ne vois pas en quoi on aura les FDLR ou les ADF Nalou chez nous. Et deuxième chose, il ne faudrait pas que l'on attende seulement la présence du chef de l'État dans ces territoires. Vous allez comprendre que contrairement à la période mobustienne où l'administrateur du territoire était doté de tout le pouvoir pour faire face à toutes les agitations subversives, aujourd'hui vous allez vous rendre compte que les autorités territoriales, notamment les administrateurs du territoire, chefs des territoires, ils ont été réduits à néant. Ils ne savent même pas avoir de l'ascendance sur la police mise à leur disposition. Je crois qu'il y a lieu que l'on puisse renforcer les entités décentralisées, notamment les territoires, leur doter des moyens nécessaires, qu'il s'agisse des finances, qu'il s'agisse de la force militaire, qu'il s'agisse de la force policière, qu'on leur dote des moyens nécessaires pour faire face à cela. Comment un jeune homme incapable de faire face à l'intrusion de ces groupes armés pourra-t-il se désolidariser avec des gens qui viennent avec des armes, qui viennent les obliger à intégrer leur force? Je pense qu'on peut aller au-delà, doter les chefs des territoires avec tous les moyens nécessaires et obliger à l'Ouganda et au Rwanda de négocier avec leurs groupes armés. Et d'ailleurs, qui n'existe plus chez nous, qui n'existe que de la fabrication de Kagame, qui fabrique les anciens prisonniers militaires, ils les renvoient chez nous, ils provoquent des tensions et ils les ramènent le soir pour justifier l'intrusion et l'agression de notre territoire par les États étrangers.
Et Gaston Mouchid, il y a des images montrées sur la télévision nationale congolaise, RTNC, où on voit le chef de l'État voyageant sur la route Kisangani-Goma, mais une route en très mauvais état. Que vous inspirent ces images, bien sûr?
C'est heureusement ça, l'image de la République démocratique du Congo. Hein. Quand vous allez vers les routes de certains agricoles, vous avez la même situation. Et donc, le pays, il est grand. Je crois qu'avec la guerre, on a eu beaucoup de retard. Il faudra s'attaquer, mais ce n'est pas mal que le chef de l'État lui-même puisse passer dans ces routes-là, parce qu'il a pris connaissance et qu'il pourra, il est avec le ministre des Infrastructures, ça va permettre à ce que dans leur programme, ils puissent y réfléchir. Mais pour revenir dans la sensibilisation du chef de l'État par rapport à la jeunesse, c'est de solidariser des groupes armés, je me dis que c'est une bonne chose, parce que déjà cette sensibilisation, cet appel a produit pas mal de fruits. Vous avez suivi avec nous que à Chabunda, par exemple, la situation sécuritaire s'est améliorée. Et au Nord Kivu, il y a des réductions de miliciens Maïmaï, Chetani et les FDLR à Lubero, réductions de près de 150 miliciens à Routou. Ça continue, les chiffres continuent. Je dis que, contrairement à mes co-débatteurs qui ont pensé que les jeunes sont dans l'incapacité de quitter les rébellions rebelles, je vous fais préciser qu'il y a deux sortes de rébellions. D'abord, il y a comme le AFD Nalu et les FDLR qui sont de rébellions de l'extérieur, mais il y a aussi de milices d'autodéfense qui se sont créées au Nord Kivu et au Sud Kivu avec la compréhensible importance.
Gaston Mouchid, on a l'impression que nous avons perdu Gaston Mouchid. Le temps que la technique tente de le retrouver, Ambroise Mamba, à l'étape de Butembo, comme on le disait, le chef de l'État congolais a appelé la population de Beni et Lubero à sensibiliser les jeunes pour qu'ils se désolidarisent des groupes armés. Mais est-ce que cette fois-ci on peut espérer que c'est vraiment la fin des groupes armés? Est-ce que le chef de l'État sera entendu?
Oui, le problème, Gaston, que nous avons perdu, qui était au téléphone, que nous avons perdu, le disait tout à l'heure, il parlait de deux catégories des groupes armés, il y a des forces étrangères, et puis les groupes armés nationaux, des milices. Et moi, je parlais tout à l'heure de la contrainte dont sont victimes ces jeunes. Il a demandé aux jeunes de pouvoir se désolidariser des groupes armés. Et que font ces jeunes qui n'ont peut-être pas d'occupation, lorsqu'ils sont face à la contrainte des groupes armés, ils sont enrôlés dans ces groupes, comment ils vont réagir? C'est la question que j'ai posée. Il faudra qu'on puisse réfléchir par rapport à la question et trouver la solution. Le chef de l'État devrait tout simplement demander au FARDC de faire subir à ces groupes armés la puissance des feux, comme il a lancé la mise en demeure. Et comme ça, il permet aux jeunes de ne plus faire route ensemble avec les groupes armés. Ce qui se passe dans des villages, c'est quoi? Au fait, vous voyez, le chef des milices vient, il vous enrôle des forces dans son groupe. Et il y a une arme qui est braquée sur vous, comment vous allez réagir? Voilà pourquoi j'ai parlé de la contrainte. Et Gaston qui est au téléphone tout à l'heure lorsqu'il a dit qu'il est contre ce que nous disons, mais est-ce qu'il fait allusion également à la contrainte? La contrainte dont sont victimes ces jeunes dans des villages par rapport au fait qu'ils sont enrôlés des forces et on leur promet peut-être de l'argent, on leur promet des avantages, lorsqu'ils ne sont pas occupés, lorsqu'ils n'ont pas d'emploi, ainsi de suite. Et je pense qu'ils n'auront pas de facilité à pouvoir se désolidariser de ces groupes armés. Mais il faudrait peut-être que, comme l'a dit Joël, donner des moyens au niveau des chefs de territoire pour encadrer beaucoup des jeunes. Lorsqu'ils ont des occupations, ils ont également la possibilité de pouvoir se désolidariser de ces groupes armés.
Joël Kadentang, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je veux vous demander juste une réponse courte. On sait que la Brigade des Nations Unies travaille avec les FARDC et à la base de la chute du M23 a un mandat bien limité. Et au terme de ce mandat, si jamais il n'était renouvelé, quelle garantie nous avons sur la réduction de la capacité des nuisances de ces groupes armés? Et si jamais ce groupe, bien sûr, armé, entrait de nouveau en action, que prévoit l'État congolais et le gouvernement congolais pour y faire face?
Oui, je crois que le chef de l'État a déjà saisi la mesure de la tâche en renouvelant le rôle de nos forces armées, en les instruisant et en dotant notre armée de capacités nécessaires pour faire face à toutes les agressions extérieures. Et je crois que si le mandat de la MONUSCO n'est pas, le mandat de la brigade d'intervention n'est pas renouvelé, je crois que nous serons en difficulté face, n'est-ce pas, à ces groupes armés. Parce qu'il faut aussi reconnaître que les groupes armés nationaux ont été constitués pour quelles raisons? C'est lorsqu'on voit les rwandophones entrer chez nous, tuer, massacrer, ainsi de suite, qu'il s'est construit en autodéfense populaire, bien sûr, en réponse à l'appel lancé par M. Laurent Désiré Kabila en 98, de nous constituer en force d'autodéfense populaire pour défendre notre territoire. À cela, je crois qu'il faudrait que la mobilisation soit totale au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo et que cela soit transmis à la population tout entière pour qu'on fasse face, passez-moi la répétition de ces deux mots-là, qu'on fasse face, n'est-ce pas, à toutes les agressions extérieures.
Oui, nous sommes à la fin de notre émission, mais Ambroise Mamba, puisque nous avons perdu Gaston Mouchid, on a tenté de le joindre, apparemment nous venons encore de le perdre. Quels sont, selon vous, les aspects positifs ou les retombées positives ou négatives de la tournée du chef de l'État à l'est de la RDC?
Je ne vois pas des aspects négatifs. Il y a toujours des aspects positifs par rapport au fait que le chef de l'État est parti donner des assurances à sa population, qu'il est avec elle, qu'il travaille pour elle, il travaille pour son bien-être social. Vous savez, le chef de l'État, est-ce qu'il est parti un homme politique? Non, il est parti un homme d'État. Un homme politique, non, parce qu'il est dans son tout dernier mandat et il ne va plus se représenter en 2016. Il est parti tout simplement pour dire à la population que je travaille pour vous et je militais en faveur de votre paix.
Nous terminons avec vous, Joël Kadindanga.
Non, par rapport aux aspects positifs, je crois qu'il a révolé la vedette à M. Kobler, qui immédiatement après la fin de la guerre, lui était sur le terrain, il jouait déjà pratiquement le rôle du chef de l'État, et alors que nous avions président de la République. Je crois que cela va un peu enlever l'image d'un héros que la population de l'Est commençait déjà à donner au nouveau chef de la MONUSCO. Je pense que c'est en cela, ça va un peu enlever un peu l'image de cet homme et il va réinstaller son image dans les têtes des populations de l'Est.
Je vous remercie, Joël Kadindanga. Et c'est merci avec vous que nous terminons cette émission. La partie technique de cette émission est assurée par Jean-Noël Monkondo, Guy Matete à la réalisation et Samuel Kachak vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangwe. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.